RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules à la radio, à la télé, c'est tous les jours, bien sûr, on débat, on discute. Aujourd'hui, Joël Dagosséry, la coach de vie. Jean-Philippe André, le chef d'entreprise, le manager. On dit chef d'entreprise, manager, l'ancien patron d'Haribo, qu'est-ce que
j'aime
tu préfères?
Chef d'entreprise.
Chef d'entreprise.
C'est joli, non? C'est français, c'est joli, c'est bien.
Il était en train de... le côté entreprendre.
Entreprendre, ouais. Faire. Il était décider, train... obtenir des choses, c'est bien.
Il était en train de me dire qu'il était parti avec des tonnes de paquets de bonbons Haribo. Lorsqu'il a quitté la boîte.
J'ai pas dit ça, mais il prend ses désirs pour les réalités, donc laissons-le dans ses rêves.
Dommage, c'est dommage parce qu'on aime bien les Haribo, nous on aurait pu avoir des fraises Sagada ce matin.
Charles
les
Consigny, crocodiles. L'avocat, est avec nous aussi aujourd'hui. Deuxième heure des GG, tout à l'heure à 11h20, on va s'intéresser à la colère des avocats. Ça fait un moment qu'ils sont remontés, ils vont manifester à travers différents palais de justice ou dans des audiences aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il conteste le plaidé coupable, la réforme telle qu'elle est voulue par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Est-ce qu'effectivement, ce plaidé coupable, c'est une mauvaise chose pour la justice ? On en parlera tout à l'heure à 11h20. En attendant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé vendredi dans l'après-midi au lycée Jules Guedde de Montpellier. En fait, c'est une altercation qui a éclaté dans les couloirs du lycée. C'est un professeur qui demandait à des élèves de se tenir correctement, de bien se comporter. Un autre élève lui a répondu, comme on dit, avec manque de respect. Il se trouve que l'enseignant a sorti son téléphone portable pour lui demander qui il était, s'il était bien dans le lycée. Au moment où il sort son téléphone portable, eh bien l'élève le bouscule, le professeur répond par une gifle, et bien derrière, il se fait molester, il prend des coups de pied, il se retrouve, un coup de poing même, il se retrouve au sol. Alors, RMC a mené l'enquête, notamment par Bérangère Bocquillon, et l'enseignant regrette de s'être laissé emporter avec cette gifle.
Oui, il dit « J'ai mal réagi, je reprenais des lycéens sur leur comportement dans le couloir, c'est là que cet élève et un autre ont attrapé mon téléphone et mon bras, et dans un réflexe, il a mis une gifle. » De toute façon, la vidéo dit tout, hein. On voit effectivement ce professeur qui est quand même seul, entouré d'autres élèves, et il se fait, comme il est tout seul, il perd le combat en quelque sorte, il se fait rouer de coups, il est d'ailleurs à terre à un moment donné. À l'origine de cette bagarre, c'est en fait des lycéens qui refusent donc de décliner leur identité qui était dans le couloir avec leur écouteur et donc le prof voulait prendre une photo avec son téléphone, les prendre en photo afin de les signaler, et c'est à ce moment-là qu'un des ados l'a repoussé violemment, a tenté de lui arracher donc son téléphone, et ça a dérapé. Alors bien sûr, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, alors qu'il y a tous dans la vidéo, nous explique qu'il faut une enquête flash. Il faut une enquête flash. Ouais. La fameuse enquête flash.
Donc 5 jours, c'est donc, sur une voilà. Sur une semaine. Voilà.
Une semaine
vendredi.
D'enquête. Alors sincèrement,
vendredi.
On regarde la vidéo, on a le témoignage du prof. À mon avis, l'enquête, elle prend 10 minutes. Hein. Non, c'est de l'enquête flash. Donc déjà, on va mettre une semaine dans l'administration pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Sans doute, on pense que ça va étouffer l'affaire. Peut-être que d'ailleurs le prof va être sanctionné.
Bah, les deux élèves ont été exclus déjà.
Le prof, il va peut-être être aussi sanctionné. Les deux élèves ont été exclus. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut soutenir davantage ces profs qui se retrouvent un peu seuls face à des lycéens ?
Deux inspecteurs d'académie qui sont sur le dossier.
Ah bah alors s'il y en a deux en plus, ça c'est sûr qu'il y a plus d'inspecteurs d'académie parfois que de profs. Et parce que ce prof, on sent qu'il est seul quoi face à des élèves qui n'obéissent pas, qui sont des grands gaillards et il se défend mal. Mais peut-être qu'il n'a pas d'autre choix.
Qu'est-ce que tu en dis, Jean-Philippe ?
Moi, je dis deux choses. D'abord, on est nous-mêmes même plus surpris de voir qu'il y a une vidéo qui a été faite de ce truc-là.
Oui.
Ça a été mon premier réflexe. C'est-à-dire qu'il y a
un homme. Et ça a fait le tour des réseaux sociaux.
Il y a un homme qui se fait molester, parce qu'on a parlé d'abord d'altercation, mais en fait,
non.
Le gars, il prend des coups.
Oui, il prend des coups.
Et nous, là, on est là, on commence une vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au lieu. Premier réflexe, de venir en aide, d'essayer de calmer
les lycéens qui ont tous sorti leur portable à ce moment-là.
On sort le portable, c'est pas la première fois, malheureusement on le reverra, mais je voulais le dire. La deuxième chose, c'est, je veux pas jouer au vieux de la situation, mais quand on revient un peu en arrière, quoi, le maître, le professeur, etc. Personne, enfin, oui. Des gens de ma génération, personne n'aurait pu imaginer de porter la main sur un professeur. Alors même qu'il a sans doute fait une erreur, ce monsieur. Il a fait une erreur, parce que je pense qu'un pédagogue n'a pas à taper. Mais une fois qu'on a dit ça, ce monsieur, administrativement, il est dépositaire de l'autorité publique. Dépositaire de l'autorité publique. Quand vous voyez cet homme à terre, comme ça, tu es dépositaire de quoi ? Tu es dépositaire d'une humiliation publique. Et pour se reconstruire derrière ça, je trouve que c'est terrible. Et dernier point, j'ai l'impression que c'est presque un marronnier, notre histoire. Parce qu'on commente ça aujourd'hui. Je crains, on l'a déjà commenté par le passé. Et si on y prend garde, on va le commenter dans un mois, deux mois, etc.
Dans la vidéo, on aperçoit tout de suite deux élèves qui ceinturent celui qui est en train de frapper le professeur parce qu'ils se rendent bien compte que là, c'est pas possible. Ils le retiennent. Bon, il se débat, il se démène l'autre quand même parce qu'il veut y aller. Hein, il veut continuer alors que le professeur a glissé, il est tombé au sol, il se relève. Il y a une jeune fille, on voit qui s'interpose et puis l'autre qui tient son copain en disant c'est pas possible. Joël Dagosséry.
Donc tu vas faire un bac plus 5, être payé 1800 euros pour aller finir au sol avec les élèves qui te rouent de coups.
Et humilié par la vidéo aussi.
Voilà, et on pense que là, on va recruter de bons profs dans les prochaines années, dans les années qui viennent. Mais écoute, cette vidéo, elle est à elle seule, je pense, un repoussoir pour n'importe qui voudrait faire de longues études et s'orienter dans une carrière d'enseignant. Et notamment, je parle là, notamment des profs dans le scientifique qui ont quand même un peu plus de choix, entre guillemets, de s'orienter peut-être sur un prof de maths à être ingénieur ou quoi que ce soit, plutôt ou un prof de physique, plutôt qu'à être prof dans ce type de contexte et d'environnement.
Lycée Jules Guez de Montpellier.
La chose que moi, je veux dire sur l'autorité, je le vois parce que je coach des managers. L'autorité dans notre société, c'est plus ce que c'était. Avant, l'autorité, il te suffisait d'avoir un statut reconnu par la société, prof, gendarme, directeur de quelque chose, médecin. Il te suffisait juste d'avoir ce titre pour être respecté. T'avais rien à faire d'autre. T'avais pas à développer de compétences, comme on appelle aujourd'hui les compétences douces, etc. Tu avais ça, c'était bon. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Moi, je vois des managers qui sont complètement démunis parce que le fait d'être juste à diriger une équipe, par exemple, eh ben, ça suffit plus, en fait, d'avoir ce statut-là. Il faut négocier, il faut savoir, entre guillemets, mériter le statut qu'on t'a donné après avoir durement travaillé. Il faut que les autres pensent que c'est mérité. Et tout ça, ces compétences-là, bah, peut-être que aujourd'hui, on n'en prend pas assez, on les prend pas assez en compte et on comprend pas que ça doit jouer. La deuxième chose que je veux dire sur l'autorité, c'est que moi, je me souviens, j'étais comme tout le monde, ado à l'école, etc. J'avais peur du prof, mais j'avais peur de mes parents. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de double peine que tu te prenais quand tu étais puni à l'école. Donc, tu avais la punition de l'école et j'avais mon père qui disait si vous rentrez avec des heures de colle ou si l'école m'appelle, je peux vous dire que ça va barder. Donc, en fait, le parent n'était même pas là pour se poser des questions sur... Moi, j'ai une sœur qui est aujourd'hui professeure, mais tous les jours, elle me raconte que tu as tel parent qui vient dire pourquoi est-ce que vous avez mis ça à mon enfant, qui vient négocier même les cours, pourquoi est-ce que vous enseignez ça, pourquoi est-ce que vous avez... Donc, tu as des parents qui ne soutiennent plus, il n'y a plus cette double peine. Donc, moi, je pense que les profs, là, ils se sentent démunis. Et le téléphone.
Professeur de quoi, ta sœur?
Elle est professeure de lettres, de français.
Ouais, en lycée.
En lycée et en collège. Mm-hmm. Et le truc, c'est que là, tu as des profs qui sont démunis. Elle, c'est une prof plutôt un peu sévère, à la Barbara.
Dans un quartier difficile.
Dans des QPV, voilà.
Quartier prioritaire.
Voilà, exactement. Donc, elle est un peu à la Barbara, si on peut dire ça comme ça. Et tu vois, ce genre de prof, eh ben, c'est plus si courant. C'est plus si courant. Et le téléphone, le fait que ce prof sorte le téléphone, c'est parce qu'en fait, il est, oui, je sais que je fais un tunnel, mais encore deux minutes. Vas-y, non, deux secondes.
Quand Régis, on s'appelle avec toi.
Oui, parce que c'est rare. Ça fait longtemps que mais le fait de sortir le téléphone, tu vois bien que c'est un prof qui n'avait plus rien d'autre, qui n'avait plus, qui était démuni et il a trouvé que le téléphone comme outil de preuve ou de pouvoir asseoir son autorité, ça a dérapé, voilà.
Charles. Non, mais en tout cas, apportons notre soutien total à ce professeur qui manifestement était quand même seul contre tous, et j'espère qu'il sera soutenu par l'Éducation nationale.
Après l'enquête flash, il va y avoir audition des témoins, audition des deux élèves concernés, audition de ce qu'on appelle les membres de la communauté éducative du lycée tout au long de la semaine. Jusqu'à vendredi, on va auditionner tout le monde. Enfin, les deux inspecteurs d'académie vont auditionner tout le monde. Une enquête sans précédent.
En tout cas,
je peux pas s'empêcher de sourire.
On sent un peu d'ironie dans le temps.
Pas du tout.
En tout cas, non, mais on est face à la racaillisation. Excuse-moi, tu m'as
mais
fait
je
rire.
T'en prie.
On est face à la racaillisation croissante de la jeunesse française. Et ça, pour le coup, c'est pas drôle, parce qu'on le constate partout, à quel point on a maintenant des Kaira dans tous les sens qui font n'importe quoi. J'ai regardé la vidéo pendant que Joël parlait, j'avais 10 minutes devant moi, donc j'ai regardé la vidéo.
Oh non, oui.
C'est ce qu'on voit bien, c'est que c'est quand même ce gosse qui commence, hein, et oui. Que vraiment, la réponse du professeur, elle est complètement instinctive. Je pense qu'il pense même pas à ce qu'il fait.
C'est-à-dire que le professeur, pour rappeler, au moment où il leur demande de décliner leur identité, de dire oui. qu'ils sont, le professeur prend son portable.
Oui, parce que les
il veut vérifier derrière, tu vois, parce qu'il est pas sûr, comme il y a beaucoup de lycéens dans cet établissement. Donc c'est pour ça qu'il les filme. Et le jeune, le fait de se voir filmer, vient vers lui, il le repousse. Et c'est à ce moment-là, de manière assez véhémente, et c'est à ce moment-là que le professeur a ce réflexe.
Oui, mais pour moi,
il appelle le réflexe d'autorité.
Avec les rires du reste de la classe. Parce qu'en fait, il y a espèce de. C'est triste, moi, je trouve qu'elle est pathétique, cette vidéo. Parce que tu sens que le prof, il est humilié, il est seul, dans une situation. Alors là, la fameuse communauté éducative, elle n'est pas là. Tout le monde se planque. Il reste seul dans son couloir, face à des types qui sont quand même grands. C'est des gaillards, hein, c'est pas des mômes. C'est vraiment terrible.
Oui, mais donc, effectivement. On est au stade du réflexe. Moi, ça m'a fait penser à Bayrou qui met une claque au gosse qui lui fait.
Bah, ouais, c'est ça. Il a fait une
ensuite, pardon, je remarque sur la vidéo, mais à vérifier, il y a une jeune fille qui semble porter le voile. Je croyais que c'était interdit. Je pense que ça pourrait faire partie de l'enquête. Parce que si on commence à accepter des trucs interdits et notamment des manifestations de d'entrisme religieux et de séparatisme religieux, je pense que c'est déjà le début du laisser-aller général. Ensuite, les professeurs, malheureusement, ne sont plus respectés. Moi, je trouve que ces élèves devraient avoir conscience de la chance qu'ils ont d'avoir ce professeur qui est là pour leur donner cours. Parce que, c'est vrai, mais bien sûr, je suis désolé, c'est gratuit.
Toi, t'as été à l'école.
Non, je suis désolé.
On s'asseyait en classe pour dire, quelle chance professeur me donne des cours. C'était juste l'autorité et c'est tout.
Mais ça, c'est encore... C'est un des travers de l'État-providence. Si le collège était payant, si les élèves payaient ce qu'ils payent aux États-Unis, par exemple, à qualité d'enseignement égale, crois-moi qu'il y aurait un peu plus, ils se tiendraient un tout petit peu plus à carreau. Là, ils tiennent ça pour acquis, offert, puisque somme toute, ils peuvent se comporter n'importe comment, ils seront jamais vraiment exclus, ils seront jamais vraiment sanctionnés. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il faut.
Il faudrait voir d'ailleurs ce que vont devenir les jeunes qui ont frappé. Parce que pour l'instant,
ils ont été exclus à titre conservatoire.
C'est temporaire, mais.
Il faudrait leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être là. Ensuite, effectivement.
Est-ce que tu les exclus définitivement de l'école?
Effectivement, il est bien seul.
Moi, je pense. Il n'y a pas besoin de faire l'enquête flash.
Il faut qu'on écoute ces professeurs qui quand même sont très nombreux à dire qu'il y a trop d'heures de cours sur une journée, faut qu'on réduise le nombre d'heures de cours et faut qu'on augmente la présence des profs dans les établissements. Ça, je sais que ça ne leur fait pas plaisir, mais je pense qu'en termes de temps qui leur est demandé dans les établissements, c'est pas assez. S'il y avait plus de monde sur place et s'ils étaient moins chez eux, il y aurait des gens là.
Mais Jean-Philippe, est-ce que tu en veux à ce prof d'avoir eu ce réflexe de gifle ou pas? Très franchement.
Je lui en veux, mais je l'excuse. Parce que je pense qu'on peut pas lui en vouloir parce que il doit être à un niveau d'exaspération. Il doit en voir de toutes les couleurs tous les jours. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Un pédagogue n'a pas à taper. C'est pas le propre d'un pédagogue de faire ça. Maintenant, par rapport au fait, c'est ça.
Ils l'ont insulté, hein.
Il a été humilié. Je crois que
il
dort très mal.
Qu'est-ce qui motive la gifle? C'est-à-dire que d'abord, ils lui ont répondu. Ils l'ont insulté, ils l'ont repoussé.
Il a repris. Inconsciemment ou pas, un réflexe des gamins qui a été de prendre lui-même une photo. Parce que si je prends la photo, c'est que peut-être je n'ai pas l'autorité suffisante pour simplement dire madame, c'est vous, monsieur, c'est vous. J'ai besoin, par rapport à tous les autres, de prouver, regardez, j'ai une photo. Mais c'est là où on marche sur la tête. Et je voulais dire autre chose. Là, tu as fait mention de cette enquête. Enquête flash administrative.
Oui, jusqu'à vendredi.
On pourrait se poser la question.
Judiciaire.
Pourquoi il n'y a pas une enquête judiciaire? Parce que ce monsieur, s'il était soutenu,
il pourrait aussi
porter plainte.
Bien sûr.
Il pourrait porter plainte. Et des violences sans incapacité, parce que j'espère
le problème, c'est que le gosse peut porter plainte aussi.
Mais par contre, il est mineur, etc. On part sur un autre sujet. Mais je pense qu'il faut.
Il n'était pas mineur, mais il a peut-être redoublé.
On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut donner la juste importance à ce type d'événement.
22 ans, troisième.
Qu'il fasse. Là, t'en rajoutes. Mais il faut donner la juste importance à ce truc-là.
Dans un instant, on sera avec Christophe qui est commerçant du côté du Var. On sera avec Enzo qui est professeur d'histoire-géographie aussi du côté de l'Ain. Est-ce que vous comprenez ce professeur qui a giflé l'élève? Derrière, ça lui a valu une bordée de coups quand même. Hein. C'est au 32-16 qu'on en discute avec vous dans les GG, les 10h15.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
On discute et on débat avec vous. On s'intéresse à ce qui s'est passé à Montpellier avec Christophe. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à tous.
Christophe, commerçant dans le Var. Qu'est-ce que vous en dites de ce qu'a fait cet enseignant, dites-moi.
Quand je vois ça, je fais des bons, moi. L'enseignant, il faut se mettre à sa place. Je dis pas qu'il a raison de mettre une gifle à un élève. Mais franchement, il a eu un réflexe par rapport à une agression de laquelle il a été victime, quoi. Moi, à mon époque, je suis pas vieux, j'ai 54 ans, mais quand j'étais élève, si j'avais fait le dixième de ça, je dis bien le dixième, je rentrais à la maison, mon père me coupait en deux. Il me coupait en deux, le vieux. C'était clair, net et précis. Voilà. On n'a plus la notion, Joël a raison tout à l'heure dans ce qu'elle disait, on n'a plus la notion d'obéissance, de hiérarchie, vous voyez. L'élève doit obéir à l'enseignant. Tant que c'est justifié. Là, mais de quel droit ils font ça? Mais ce sont, on vit dans un monde de fous. On est dans un monde parallèle. Je comprends pas, moi. À mon époque, un élève, un professeur, juste un regard suffisait des fois. Et on savait que.
Si mais là, les temps ont changé. Hein, c'est plus comme ça, Christophe.
Alors, tout part de l'éducation, je pense. Tout part de l'éducation.
À la maison, oui.
À la maison.
Oui, pour que les mômes puissent se permettre de faire ça, c'est qu'il y a un problème à la maison. Hein.
Oui, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'un gamin, c'est comme un arbre. Un gamin, pour qu'il pousse droit, il faut qu'il ait un bon tuteur à côté. Si le tuteur est tordu, l'arbre va pousser tordu. Si l'adulte est tordu, le gamin va pousser tordu. Voilà. Donc je suis désolé. Voilà, c'est la base, c'est l'éducation. Le professeur, on doit obéir au professeur.
Alors, ouais, final. Christophe, le coup de gueule de Christophe qui veut de l'autorité, qui en appelle à la responsabilité des parents. On est avec Karim El-Wardi, qui est le président du SNALC. Vous savez, c'est le syndicat des anciens écoles des collèges. Bonjour Karim El-Wardi, merci. Bonjour. Déjà, quelles sont les nouvelles de votre collègue de Montpellier, alors, justement?
Bon, alors déjà, il faut imaginer dans quel état il est. Vous savez qu'il y a la pression médiatique, il y a la pression des familles, il y a la pression des autorités. Je vous remercie de m'inviter parce que ça fait depuis vendredi que je fais tous les plateaux et que je dis qu'enfin, grâce aux médias, on va poser le débat de la sécurisation des agents dépositaires de l'autorité publique. Mmh. Alors, il faut savoir que ce que vient de dire Christophe, je partage à 100% son opinion, il faut savoir que s'il dit ça à l'éducation nationale, vous avez des syndicats démagos qui sont là depuis 100 ans, vous dites ça, vous êtes traité de facho. Je vous le dis juste pour que vous compreniez dans quel monde nous vivons. Ce que vous dites, c'est de la cohérence, mais à un moment donné, je peux dire ce que vous voulez dire, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut lancer un vrai débat. Je vous le dis très tranquillement, un débat démocratique, transpolitique et transpartisan. Il n'y a que là qu'on comprendra un petit peu les enjeux qui se jouent.
Karim El-Wardi, le problème, c'est que dans cette histoire, vous allez voir que votre collègue va être sanctionné.
Alors, je crois que vous me connaissez très mal. Vous avez bien fait de m'inviter. Il est hors de question qu'on touche à ce collègue. Je vous dis honnêtement, si on touche à ce collègue ou s'il arrive quoi que ce soit à ce collègue, c'est toute une profession qui va se lever. Parce que, bon, tout d'abord, je voudrais quand même.
Ça serait injuste pour vous s'il était sanctionné.
Non, scandaleux.
D'avoir giflé le jeune.
Non, pas injuste, scandaleux.
Scandaleux.
Alors, pour moi, d'abord, je voudrais saluer quand même le courage d'une personne dont personne ne parle, qui est une AESH, qui est intervenue pour mettre fin au lynchage. Ouais. Parce qu'il y en a qui parlent de bagarre, des journalistes qui parlent de bagarre, etc. Il faut remettre.
Non, c'est pas une bagarre, c'est un lynchage.
Merci.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, ça m'a choqué d'entendre certains de mes confrères ce matin de me parler d'altercation. Les mots ont un sens, notamment quand on parle de l'école. Effectivement,
c'est une agression.
C'est une agression, c'est un lynchage.
Bon, je me réjouis qu'enfin, il y ait des gens qui aient de la cohérence dans ce pays. Moi, je vais remettre les choses dans leur contexte. Cet enseignant, qui est quelqu'un de fort sympathique, mais surtout de courageux, il a eu un geste proportionné d'autodéfense face à un lynchage qui, lui, est complètement disproportionné des élèves. Moi, je veux souligner au nom du SNAC, quand même, la lâcheté, la couardise des élèves qui filment et qui rigolent. Pour moi, ils sont complices et il faut.
Qui filment et qui postent ensuite sur les réseaux sociaux.
Il faut une sanction contre eux aussi.
Ah oui.
Non,
oui.
Mais moi, je suis pour les sanctions exemplaires pour les auteurs des faits de violence, mais aussi pour ceux qui sont complices.
Mais quel type de sanction? Quel type de sanction?
Mais moi, monsieur, première des sanctions, c'est que. Alors, je vais être un peu dur, hein, mais moi, je suis défenseur de la profession. Quelle sanction? Hier, j'écoutais un autre média qui est plus doux que le vôtre, qui disait est-ce qu'on peut arriver à un conseil de discipline? Mais cette question, elle est aberrante. C'est combien de temps ils sont exclus et on va responsabiliser les familles. Vous allez voir ce que je propose, moi, au nom du SNAC, que les familles trouvent un établissement pour l'inscrire. Et vous allez voir que les familles vont se dire, putain, tu avais de la chance d'être à l'école, maintenant on doit se débrouiller avec ton dossier.
Donc, il faut qu'ils ne reviennent pas au lycée, pas dans le lycée, qu'ils soient exclus.
Collègue, il est en arrêt, là?
Oui. Mais monsieur Truchot, monsieur Marchal, vous ne parlez que d'exclusion, mais il faut aller sur des sanctions judiciaires.
Bien sûr.
On a touché un personnel d'État autoritaire de l'autorité publique. Donc, rien ne justifie.
Est-ce que votre collègue va porter plainte, justement?
Oui, bah alors vous voulez rigoler. Bah, il n'est pas dans mon syndicat, il est dans un autre syndicat. Écoutez, moi, je ne veux pas intervenir dans son action.
Non, bien sûr.
Il a porté plainte pour vol de téléphone. Pour vous dire que.
Ah, si, lui ont piqué son téléphone en plus. C'est pas la bonne. Il faut porter plainte pour coups et blessures.
Exactement. Mais écoutez, moi, s'il m'appelle, je le conseillerai en ce sens. Mais je veux quand même profiter de votre émission pour dire que rien ne justifie qu'on lève la main sur un agent des policiers de l'autorité publique. Alors, vous avez des pleureuses, je suis désolé d'utiliser ce terme, vous avez des gens qui, depuis 80 ans, disent « on n'a pas de moyens ». Oui, certes, c'est vrai, on n'a pas de moyens, mais on ne va pas s'amuser à mettre un surveillant sur chaque élève de France.
Votre collègue, vous avez vu, il s'est excusé d'avoir mis la gifle aussi.
Mais monsieur, face à la pression médiatique, les familles, les lycéens qui appellent au blocus, mettez-vous à la place de ce collègue.
Il y a des lycéens qui appellent au blocus?
Ah, mais c'est le monde à l'envers.
Ils ont appelé au blocus, mais ce matin, je peux vous dire que suite à mes interventions dans les médias, ils se sont un petit peu calmés parce que je les ai appelés, moi, à rester dans leur établissement et à bosser, préparer leur bac plutôt que d'aller chercher.
Le lycée est ouvert ce matin?
Est-ce que le lycée est ouvert?
Oui. Okay. Les choses rentrent dans l'ordre. Les collègues vont pouvoir s'exprimer avec les inspecteurs. Les choses vont rentrer dans l'ordre.
Il y a une enquête flash. Hein. C'est une enquête flash jusqu'à vendredi, normalement.
Oui, c'est une enquête flash pour vous dire que l'enquête, ils vont découvrir des choses. Il y a quand même 2 mois, les professeurs ont débrayé face aux incivilités. Et il faut qu'on attende maintenant qu'on se soit passé à l'acte pour qu'on fasse quelque chose.
Donc il y a des problèmes dans cet établissement. C'est pas arrivé comme ça.
Ben non, ça fait depuis 3-4 ans.
Donc on est quand même dans l'idée, qu'il y a des situations qu'on laisse perdurer de violences, d'incivilités, etc. Et à un moment donné, on arrive à ces incidents. C'est-à-dire que si l'administration n'intervient pas en amont, voilà
ce qu'il y a. Il a mis cette vidéo en ligne.
Pour le coup, il a fallu que ce soit le ministre qui réagisse ce week-end, qui allait dans notre sens avec fermeté et qui a apporté son soutien à la communauté pour qu'on puisse aller rapidement. Je tiens à le saluer, bien que j'ai pas pour habitude de saluer le ministre, et je tiens quand même à saluer aussi les autorités académiques qui ont agi avec rapidité.
Merci.
Il faut rappeler quelque chose, monsieur Truchot.
Oui.
Monsieur Marchal.
Allez-y.
Rappelez-le, parce que votre chaîne, elle a cet intérêt d'avoir des interlocuteurs de sensibilités différentes. Il faut rappeler la base de tout. Les parents éduquent. Retenez-le bien, ça. Faites-le passer dans vos émissions. Les parents éduquent et les enseignants instruisent. Et pour ceux qui n'ont pas de parents, il faut mettre en place des dispositifs avec des personnels médico-sociaux et psychoscolaires. Mais rien, retenez-le bien, que rien ne justifie la violence. Et il faut arrêter de chercher des excuses où il n'y en a pas. Rien ne peut justifier qu'on touche à un agent dépositaire de l'autorité publique.
Merci, monsieur Elouardi.
Merci pour votre invitation.
Merci d'avoir été avec
nous. Il aura des sensibilités différentes et qu'on puisse émerger vers le haut.
Merci, monsieur Elouardi, président du Stade de Montpellier. Attendez, parce qu'on
a... Joël, t'es d'accord avec ce qu'il vient de dire, là, la fermeté? Parce qu'il il défend la fermeté, là.
Mais non, mais bien sûr qu'il faut de la fermeté. Mais moi, je pense que pour les professeurs, si moi, en tout cas, de mon époque, c'était comme ça, le prolongement de l'autorité, en fait, l'autorité commençait dans la classe et ça se plongeait dans les couloirs. Donc moi, il faut voir aussi si ce professeur était pas déjà en difficulté au sein de ses classes, tu vois. C'est-à-dire, comment il est identifié? Est-ce que c'est un professeur identifié comme un professeur couple, ou faible, comme peuvent peut-être le penser les élèves? Et t'as cette autorité, ou ce manque d'autorité, qui va se propager aussi quand il passe dans les couloirs, quand il fait des remarques.
On a Claudine qui veut nous raconter ce qui lui est arrivé. Claudine, bonjour. Claudine du Loiret. Vous aviez, bienvenue, Claudine.
Bonjour.
Vous aviez, vous, giflé un élève lorsque vous étiez prof?
Ah bon? Et oui, et je suis très surprise par tout ce que j'entends et ça me déçoit parce que moi j'ai été défendue par l'administration, par les parents d'élèves.
C'était dans quelles circonstances?
Eh bien, la veille au soir, il y avait un conseil de classe et le proviseur dit « Bon, écoutez, cette élève, ça suffit, elle est présente une fois sur deux, bon, elle a quelques petits problèmes avec la justice, vendait un petit peu de drogue, de cannabis, donc ça suffit, on la renvoie. » Alors, moi, j'étais professeur principal, je dis « Mais vous savez, qu'est-ce qu'on lui dit si elle se présente demain matin ? Elle sait qu'il y a un conseil de classe, qu'elle va certainement être renvoyée, elle risque de venir. » Le professeur me dit « Mais non, elle viendra pas, etc. » Et puis, de toute façon, il y aura des surveillantes dans les couloirs. Ils l'arrêteront. Finalement, l'élève, elle est arrivée et dès l'entrée dans la classe, elle m'a apostrophée, elle m'a dit « d'abord elle m'a tutoyé, tu le sais, j'ai été renvoyé, espèce de conne, va te faire
D'accord. Ah.
Et puis, la grossièreté, je dis pas tout. Et moi, ça a été plus fort que moi, je l'ai giflé, c'est moi qui l'ai giflé en premier. Et alors là, elle ne s'est pas démontée. Elle m'a craché au visage, elle m'a giflé, j'ai trébuché, mes lunettes ont été cassées. Et puis voilà, bon, les élèves dans la classe ont crié, bon, la collègue d'à côté est arrivée, bon, les surveillantes ont emmené l'élève, etc. Et puis après, bon, j'ai été portée par mes collègues, j'ai été portée par l'administration, le recteur m'a envoyé un mot charmant. Alors, il n'y a pas eu d'enquête flash.
Vous avez été soutenue ? L'élève a été exclue ?
C'était quand ? L'élève a été exclue, elle est passée au tribunal pour enfants. Elle est passée au tribunal pour enfants. Elle a eu des heures d'intérêt général.
D'accord. Donc c'est allé.
C'était il y a combien de temps?
15 ans.
Au moins 15 ans. Parce que je pourrais retrouver la.
Donc ça veut dire, Claudine, c'est que les temps ont changé. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand ça se passe, tout le monde est derrière vous et c'est la gamine qui est au tribunal. 15 ans après, là, c'est une enquête flash. Donc on attend de savoir précisément les tenants, les aboutissants. Et en attendant, le prof s'excuse. Mais l'élève ne s'est pas excusé.
Et puis il y avait des suites judiciaires.
Au tribunal, allez-y.
Au tribunal, ils ont obligé l'élève à me présenter des excuses.
Ah, quand même. Et les parents?
Et les parents, alors c'est ça que je trouve formidable, c'est que tous les parents de la classe m'ont soutenu.
Ah, mais ça, c'est...
J'ai reçu des lettres.
Et les parents de la jeune fille?
Bon, les parents de la jeune fille, non, elle était élevée par sa maman, toute seule, mais au tribunal, la maman m'a présenté des excuses. Bon, ils ont demandé des dommages et intérêts, mais je n'en avais pas besoin.
Oui, mais le tribunal a une vertu aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu la sanction pour l'élève, la mère a dû être devant le tribunal aussi, donc l'action judiciaire a une vertu. Mais Claudine, je voudrais qu'on écoute Enzo qui est avec nous.
C'est intéressant ce que dit Claudine, parce qu'on voit bien que les temps évoluent.
Enzo, bonjour. Professeur d'histoire géographique, qu'est-ce que vous en dites de ce qui est arrivé à votre collègue alors ?
Moi déjà j'accorde mon plein soutien à ce collègue. J'aimerais revenir sur deux points. D'abord, je suis d'accord avec Joël Dagosséry qui a très bien dit la chose. Être prof aujourd'hui, c'est plus que de la passion, parce que si on n'a pas l'autorité naturelle, c'est extrêmement compliqué de pouvoir tenir une classe, notamment au lycée. Moi, j'ai toujours été enseignant au lycée. J'adore ça et c'est ma passion. Et puis, j'ai un deuxième point, c'est dans l'école d'aujourd'hui, moi, je dirais qu'il y a eu un changement en 2013. Alors, je sais pas, ça remonte un peu. Moi, j'étais jeune, j'avais à l'époque une quinzaine d'années. Mais vous avez ce qu'on appelle la fameuse vision Payon de l'éducation nationale qui dit l'école, c'est l'égalité entre le prof et l'élève. C'est-à-dire que la parole du prof est la même que pour celle de l'élève. On a enlevé les estrades à l'école, on a limité ce qu'on appelle les sanctions, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui du sursis, c'est-à-dire qu'on sanctionne quelqu'un avec du sursis. Eh bien, tout ça, ça engendre une génération qui, abreuvée en même temps par les réseaux sociaux et par ces violences qui se trouvent, c'est pour ça que je suis souvent d'accord avec Monsieur Boyi, eh bien, ils arrivent devant l'école, et ils n'ont pas, en fait, si vous voulez, cette distance avec le professeur, ils le prennent un petit peu parfois comme... c'est le prof, quoi. C'est celui
on vient... Donc on peut gifler le prof. On peut gifler le prof.
Mais il faut que votre collègue aille devant la justice. Vous êtes d'accord avec ça, Enzo ?
Ah, mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je suis pas syndiqué. Moi, j'ai pas de point de vue syndical, mais le président de la Fédération de Montpellier, du SNAL, qui a très bien dit les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille devant la justice et il faut porter plainte pour violence. Attention, ce sont des violences volontaires. Moi, je m'alerte quand même de quelque chose. Alors, déjà, il y a un manque de respect dans le règlement. Charles l'a dit tout à l'heure, il y avait une jeune fille, elle ne respectait pas les codes de la laïcité de la loi de 2004. Mais il y a aussi autre chose. Il y a un élève qui a sorti son téléphone volontairement parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, ils étaient venus pour en découdre avec le professeur. Ils étaient venus pour venir chercher quelque chose, chercher une réaction. Alors, peut-être que le professeur a des soucis d'autorité. La question n'est pas là, mais il y avait quand même cette volonté
de
le faire déverrouiller, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va le faire sortir de ses gonds. Et puis, il va y avoir un incident. Parce qu'il filme quand même bien avant le...
Mais vous avez raison, d'ailleurs, Enzo. C'est ce que devra démontrer l'enquête flash. Et peut-être qu'effectivement, comme le disait Jean-Philippe André, il faut qu'il aille en justice, absolument, qu'il porte plainte pour coups et blessures, pour que ça aille devant le tribunal. Merci à Enzo.
Et j'ajoute, en droit de suite, il faudra qu'on vérifie à quelle peine, à quel traitement seront soumis ces élèves.
Mais puisqu'on parle de justice, on va y venir dans un instant avec le fameux plaidé coupable pour désengorger les tribunaux. Bonne ou mauvaise chose, les avocats sont vent debout, et tu as raison Jean-Philippe, il faudra suivre l'histoire de ce prof de Montpellier quand même. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. Et sur les podcasts, vous avez toutes les anecdotes qui sont racontées pendant la pub. Et là, c'est puisqu'on a l'ancien patron d'Haribo avec nous, Jean-Philippe André, le manager, le chef d'entreprise. Les GG, ils sont allés de leur petite confidence sur quels sont leurs plaisirs coupables, leurs bonbons préférés.
Et Charles a levé un lièvre sur les crocodiles. Mais on n'en dit pas plus.
Je vous laisse découvrir ça en podcast.
Les crocodiles ont-ils des goûts différents ?
On va s'intéresser maintenant à la réforme de la justice et aux plaidés coupables. La réforme de la justice criminelle, c'est Gérald Darmanin qui porte ce dossier. Ça arrive ce soir au Sénat. Et c'est un combat entre le ministre de la Justice et les avocats parce qu'il y a l'instauration de ce fameux plaidé coupable.
Ou qu'on peut appeler procédure de jugement des crimes reconnus. Ça existe déjà en matière délictuelle et là, l'idée, c'est de le faire en matière criminelle. En même temps, il faut partir d'un constat, il y a 6000 dossiers criminels qui sont en attente de jugement dans les juridictions françaises. C'est déjà un vrai scandale. Parce que c'est l'embolie est croissante d'ailleurs, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça fait planer notamment le risque d'être obligé de libérer des personnes avant qu'elles soient jugées, puisque les délais sont dépassés. Et donc Gérald Darmanin propose cette procédure de plaider coupable, donc de raccourcir les délais de jugement. Ça pourrait concerner entre 10 à 15% des dossiers criminels. C'est plutôt aussi à l'avantage du coupable, entre guillemets, puisque il peut avoir une peine un peu moins lourde s'il reconnaît sa responsabilité. Mais les avocats sont vent debout. Le Conseil national des barreaux, qui regroupe les 164 barreaux français, a appelé un grand rassemblement aujourd'hui.
aux abords notamment du Palais Luxembourg à Paris, mais il y a des manifestations un peu partout en France parce que les avocats estiment qu'on va juger trop vite, on va aller vers une justice expéditive. Notre ami Charles Consigny, dans quel camp se trouve-t-il ?
Non, bah, j'entends... quoi ?
Tu commences par non.
J'ai revu ce week-end des images de Balladur. Il avait une manière de s'exprimer qui était quand même exceptionnelle. On ne se rend pas compte à quel... Bah, comme ça, toujours un peu comme un hibou. Il était vraiment merveilleux.
Il nous manque.
Eh oui, chacun fait ce qu'il veut de ses week-ends. Voilà, moi je regarde des vieilles images d'archives.
J'ai toujours envie. Balladur, on le salue s'il nous écoute.
Voilà. Moi, je ne serais pas aussi remonté que mes confrères. Et d'ailleurs, comme souvent, beaucoup de confrères avec qui j'ai pu discuter de cette réforme, y compris des pénalistes aguerris, n'y sont pas outre mesure hostiles. Mais évidemment, ils peuvent pas le dire parce que les Khmer qui portent la contestation ne toléreraient pas le moindre écart dans les rangs. Qu'est-ce que c'est cette histoire de plaider coupable ? Moi, d'ailleurs, il y a d'autres choses qui me gênent plus que cette histoire de plaider coupable. Pour schématiser, on a supprimé peu à peu les cours d'assises pour les remplacer par des cours criminelles départementales, c'est-à-dire des cours d'assises composées de magistrats professionnels. Donc, en fait, on a tué la cour d'assises. Ça, à mon sens, c'était déjà beaucoup plus grave. Parce que c'est quand même pas du tout la même chose d'être face à des juges que d'être face à des citoyens tirés au sort. C'est pas la même justice. Et moi, je pense qu'il vaut mieux des citoyens tirés au sort. Ensuite, que cette réforme contient, qui moi me choque, c'est des mesures d'allongement de la détention provisoire entre l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle et la comparution. Je suis par principe opposé à ce qu'on allonge indéfiniment les durées de détention provisoire, qui, comme leur nom l'indique, devrait rester provisoire. Ensuite, s'agissant strictement de cette procédure de plaider coupable, comment ça se passe ? Elle existe déjà pour les délits, maintenant tout le monde a compris, ça s'appelle la CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est en gros, vous reconnaissez que vous êtes coupable, le parquet vous propose une peine, vous négociez votre peine, et si vous arrivez à un accord, vous n'avez pas d'audience au fond, il y a un juge qui homologue l'accord ou qui refuse de l'homologuer, d'ailleurs, ça arrive assez souvent, mais il n'y a pas d'audience et il n'y a pas l'aléa judiciaire. Et là, ce que disent les avocats, c'est que, en réalité, avec cette procédure-là qui va donc s'appliquer au crime, qui s'appellera la procédure de jugement des crimes reconnus, ça va avoir pour effet d'inciter fortement la personne mise en cause pour des faits criminels en lui faisant miroiter, en gros, une procédure plus courte. Donc sans détention provisoire d'ailleurs, donc on revient sur une détention pression par hypothèse avec une peine plus clémente que si on allait au fond. Moi franchement je vais pas me faire beaucoup d'amis au barreau en disant ça, mais il y a quand même quelques affaires dans lesquelles les faits sont reconnus et dans lesquelles parfois l'audience elle ressemble vraiment à une espèce de pantomime de procès où en fait c'est
et où on perd du temps, on fait perdre du temps à la justice,
en fait on perd du temps et tout le monde est d'accord
et à la fin
comme quand même on a quand même tendance à s'exciter un peu etc machin, en fait les juges parce que c'est leur nature, pardon je vais pas me faire des amis non plus chez eux, mettent quand même un bon gros taquet à la personne qui a comparu devant eux quand bien même elle reconnaissait les faits et l'audience se déroulait dans une ambiance chambre d'enregistrement. Alors que si on a quelque chose qui est négocié, reconnu, etc., je pense qu'on peut avoir des sanctions en fait plus douces. Donc la procédure en elle-même, moi, je la trouve pas si délirante.
D'accord. Jean-Philippe, d'accord avec la procédure du plaider coupable ?
Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, oui. Et alors, j'aimerais renvoyer la question à Charles. J'ai vu aussi que dans cette réforme, ils envisageaient de changer la composition de l'instance qui plaide. Aujourd'hui, ce sont 5 professionnels.
Ouais.
Et l'idée était mise, à travers cette procédure, d'intégrer des professionnels qui auraient évidemment quelques aptitudes à faire la justice. Quel est son avis là-dessus ?
Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas vu le détail. Mais moi, la composition, soit on est devant des jurés populaires, et là, c'est un vrai procès d'assises, et il se passe vraiment quelque chose.
On les a réduits d'ailleurs.
Soit on est devant des magistrats professionnels, et c'est une toute autre audience. J'ai pas suivi dans le détail la composition des cours.
Joël, plaider coupable, oui ou non ?
Je suis assez partagée. Je suis pragmatique. Je trouve que c'est quelque chose d'assez
assez pragmatique.
Ça existe dans quasiment toutes les juridictions, voilà. D'ailleurs.
Aux États-Unis,
en Europe,
par exemple,
en Europe
beaucoup,
ça existe.
Voilà, on le voit beaucoup dans les films américains, par exemple.
Oui, mais
le
pas seulement
d'avoir un accord
l'Europe,
avec le procureur.
Hein,
voisin. Voilà. Donc, non, je suis assez partagée. Puis de l'autre côté, moi, ça traduit pas seulement une volonté de rendre les choses dans le bon sens, un peu pragmatique, etc., efficace. Ça traduit aussi un échec quelque part. Parce qu'il faut bien dire la vérité, c'est que Gérald Darmanin, mais pas que lui, parce qu'il y a eu d'autres ministres de la justice avant lui, la politique judiciaire en France, elle est un peu en échec. Mmh. Par exemple, on nous avait dit que il y aurait 15 000 places de prison
supplémentaires,
voilà, qui sortiraient, je sais pas, en 2027. Bon, apparemment, on est un petit peu en retard sur ce côté-là.
On est à même pas 5 000.
Voilà,
on n'a même pas fait la moitié. Oui.
Ouais. Moi, je suis plutôt pour, mais encore une fois, je regarde comment est réparti le budget en France. Et sur 1 000 euros de budget de l'État, il y en a 12 euros pour la justice. Tu vois, donc avec 12 euros pour la justice, tu m'étonnes que tu ne peux pas traiter les affaires et que ça s'accumule. Et tu m'étonnes que tu vas choisir finalement de faire du plaider coupable. Donc 12 euros, tu vois, hier, j'ai réservé ma place pour aller voir Michael au cinéma.
Ah bon ?
Oui, c'était 13 euros. Donc tu vois, 12 euros, c'est le prix d'une place de cinéma. Et c'est le budget qu'on dédie à la justice. Donc voilà, ceci explique cela. Donc moi, je suis d'accord, c'est pragmatique, ça peut aller dans le bon sens, mais je crains que ça cache en réalité une non-volonté de faire les réformes nécessaires pour muscler le régalien, abandonner toutes les interventions de l'État qui ne devraient pas être dans son giron. Voilà, ça masque une autre réalité.
Alors, pour répondre juste à Jean-Philippe, parce que j'ai vérifié le point sur la composition, ce sont donc pour les cours criminelles départementales qui sont pour l'instant composées uniquement de magistrats. Ce que prévoit le texte, c'est de faire remplacer deux magistrats sur les cinq qui siégeraient par des avocats honoraires ou des citoyens assesseurs. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un citoyen assesseur, peut-être un citoyen tiré au sort comme pour les cours d'assises. Bon, ça, moi, ça ne me choque pas non plus outre mesure, parce que je pense même qu'il faudrait ouvrir la magistrature aux ce qu'on appelle un avocat honoraire. C'est un avocat qui n'est plus qui n'exerce plus
d'activité. Bon. Ouais.
Je pense que ce serait pas mauvais d'avoir des gens d'expérience issus du monde juridique et qui en fin de carrière deviendraient juges. Très souvent, il y a beaucoup plus de sagesse et de capacité à juger chez un vieil avocat qui a fait 30 ans de carrière et qui en a vu d'autres que chez un jeune juge pétri d'idéal et un peu puritain. Donc je suis pas
C'était le petit éclaircissement des jugés de notre avocat Charles Consigny à propos de cette manifestation des avocats dont vous allez entendre parler tout au long de la semaine contre ce plaidé coupable. Troisième heure des jugés dans un instant. Travailler le 1er mai. Le Premier ministre reçoit les syndicats aujourd'hui. Alors le gouvernement dit, ne vous inquiétez pas, on passera pas en force sur le travail du 1er mai.
Ça
le
sent la
train
reculade.
Ou la voiture, ça commence à être de plus en plus cher avec le train par rapport à la voiture. Mais dans un instant, le journaliste Paul Melun avec nous, l'éditorialiste Paul Melun, avec ce livre Plouc Story. Le Plouc, c'est lui qui est arrivé sur les plateaux parisiens.
C'est la biographie de Joël.
C'est 9h midi. Les Grandes